Bien, donc je vous présente un petit peu mieux Gail Borthwick. Je viens de la présenter. Donc je rappelle, elle est senior architecte à l'agence Adrian Smith et Gordon Gill, architecture à Chicago. Mireille Ferry va arriver. C'est la vice-présidente de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France. Elle est également vice-présidente de la Fédération nationale des agences d'urbanisme et conseillère de la région Île-de-France, la FNO, qui a son congrès en novembre à Bordeaux. Et on parlait tout à l'heure, Luc parlait tout à l'heure de données sur la ville. Hein, je crois que le thème de la FNO cette année, c'est chiffrer la ville ou la ville en chiffres. Enfin, il est question de données et de villes. Anne Jette, directrice de l'agence parisienne du climat. Marie Gantois, qui est chargée de mission climat et adaptation au changement climatique pour la ville de Paris. Bertrand Ressé, qui est de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. C'est toujours le bon intitulé. C'est très bien, il y a la pêche aussi. Non, il n'y a pas la pêche, si. Très bien, on va s'arrêter à ça. Et Guillaume Simonet, qui est postdoctorant, spécialiste des vulnérabilités, impact et adaptation au changement climatique, et qui termine une thèse en sociologie. Il a bien terminé très très longtemps, ça y est, c'est fini. C'était sur les représentations sociales et les politiques municipales liées aux questions d'adaptation à travers une comparaison entre Paris et Montréal. Montréal, où tu as passé une bonne dizaine d'années. Je vous avais donné quelques questions à réfléchir pour cette table ronde. La première, c'était les connaissances scientifiques accumulées sur la capacité des services écologiques à répondre aux changements climatiques dans les métropoles et à tendre vers des métropoles durables, sont-elles suffisantes pour envisager la mise en place de politiques municipales adaptées? C'était la question que posait Chantal un petit peu, qu'a reprécisé Luc tout à l'heure. On a vu avec votre intervention, Gail, qu'il y avait des choses à faire, qu'on pouvait trouver des directions, mais est-ce qu'on en est aujourd'hui suffisamment? Est-ce qu'on a des données et des observations, des expériences suffisamment précises pour pouvoir guider l'action politique? C'est une question que je laisse à la sagacité de tout le monde. Donc, emparez-vous des micros. Il n'y a pas d'ordre. C'est celui qui veut prendre la parole le premier la prend. Marie Gantois.
Je peux bien commencer, oui. J'ai un exemple en tête qui est la végétalisation de la ville. Donc, on a pas mal parlé en début de colloque notamment. Végétaliser pour notamment... favoriser et préserver la biodiversité et profiter des services écosystémiques et écologiques de la biodiversité en ville. On a pas mal d'études qui ont porté sur le sujet. On en a une qui sera présentée notamment demain. C'est l'étude EPICEA qui a été évoquée par Christiane Blanco tout à l'heure, menée par Météo France, le CSTB, en partenariat avec l'APURE et l'Agence parisienne du climat, financée par la ville de Paris. Donc cette étude a permis de modéliser le climat urbain de Paris et de modéliser aussi des réponses, notamment en termes de végétalisation de la ville, comment la végétalisation pouvait permettre de réduire la température en ville. Donc ça, c'est des études qui sont très très utiles, qui vont permettre d'avancer la connaissance là-dessus, mais on n'a pas attendu d'avoir les résultats de cette étude pour lancer la végétalisation à Paris et pour la porter. Dans le premier plan climat de Paris qui a été voté en 2007, on avait déjà un objectif assez fort de végétalisation qui a été repris dans le plan biodiversité qu'on a adopté donc la ville de Paris l'année dernière. Donc voilà, c'est un des premiers exemples que je voulais...
Donc ça, on a des études. Donc on n'a pas... Ce que vous dites, c'est qu'on n'a pas attendu d'avoir toutes les confirmations. On a lancé les choses. Mais est-ce que... Parce que parfois, on dit... On a une intuition. On dit ça serait bien de faire. Et puis finalement, ce n'était pas exactement ça qu'il fallait faire. Et on a juste aggravé un phénomène. En tout cas, on l'a pas... Voilà. Est-ce que chacun dans vos disciplines, vous pensez que les connaissances sont assez précises pour pouvoir guider une action politique? Mettre en récit.
Effectivement, pour la première question, pour ce qui est des services écosystémiques, alors ce matin, on a beaucoup parlé des questions d'espace vert dans les villes. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de ces questions-là, mais c'est vrai qu'à part l'espace vert en termes d'écosystème, enfin, on va dire espace vert ou espace, on va dire ce qui peut être des plans d'eau, etc., on ne voit pas beaucoup de propositions sortir de ça. Cela étant, les propositions qui sont végétalisation ou création d'espace en eau, globalement en termes de, enfin, au niveau scientifique on sait que c'est efficace mais le problème qu'on a c'est plutôt de savoir finalement combien il faut faire pour abaisser suffisamment la température. On sait que si on plante des espaces verts ou si on les conserve, globalement, on va dans le bon sens. Après, la question, aujourd'hui, je pense qu'il y a encore une question de recherche, c'est combien de surface il faut que je mette, avec quel type de végétation, est-ce qu'il vaut mieux du bas, est-ce qu'il vaut mieux du haut, à quels endroits particuliers il faut plutôt la planter plutôt qu'ailleurs. Ça, c'est des questions qui sont beaucoup plus complexes et qui sont encore du domaine de la recherche. Par contre, comme l'a dit Madame Gantois, c'est qu'en fait, il y a des choses qui peuvent être et qui sont faites d'ailleurs par un certain nombre de municipalités, qui est de dire, ben voilà, je favorise le développement des espaces verts ou leur maintien, avec deux limites, on va dire, à plus long terme, et qui sont plus, bon, nous, dans les thèmes dont on s'occupe à l'Observatoire, au-delà de 2030, c'est la question, premièrement, toutes les solutions qu'on a vues, elles consomment de l'eau. Donc, il y a des endroits où, telle la ville de Paris, parce qu'il y a un réseau d'eau secondaire, on va dire, qui permet
d'utiliser ça. D'eau non potable.
Voilà, d'eau non potable, qui est très...
très rare, d'ailleurs, dans le monde.
Très rare, mais qui, en tout cas, on donne une plus-value évidente à Paris. Il est évident que multiplier des espaces verts partout, ça va consommer de l'eau. Jusqu'à 2030, peut-être que ça ne pose pas de problème. Au-delà, il faudra peut-être penser à autre chose. Et le deuxième point qui est, comme on a vu, des exemples où refroidir des... Enfin, en tout cas, limiter l'échauffement de certaines rues en enlevant des places de parking. Globalement, c'est quelque chose qui... Enfin, scientifiquement, ça tient bien le choc. Après, c'est vrai que dans des espaces qui sont extrêmement denses, en termes d'acceptabilité, c'est pas évident de dire, ben voilà, dans la rue de Pontoise, comme on a montré, je vais vous enlever des places de parking, je vais mettre des arbres à la place. Donc, on a l'impression qu'on a quand même des choses qu'on sait faire, mais on a quand même des contraintes qui font que, sans doute à terme, techniquement, il est probable qu'on soit uniquement avec l'ingénierie, enfin, avec les services écosystémiques, on ne soit pas forcément en capacité de garder finalement la ville enfin, suffisamment agréable, au moins autant agréable qu'elle est aujourd'hui.
Guillaume, tu as travaillé sur ces problématiques d'adaptation. Est-ce qu'il y a suffisamment d'infos scientifiques ? Est-ce qu'on est clair ? Luc disait tout à l'heure, on ne sait pas comment se comporte finalement un arbre en ville. On ne sait pas, voilà, tel arbre, on ne sait pas où il va chercher son eau, ce qu'il produit, où il prend son carbone. C'est grave ça pour arriver à éclairer l'action des décideurs ?
Je vais le tourner différemment, cette question-là. Je vais introduire un petit peu de connaissances humaines, on va dire, parce que je trouve que ça manque un petit peu d'humain jusque-là. Parce qu'on parle beaucoup d'écosystèmes, écosystèmes urbains. D'ailleurs, j'ai travaillé à la chaire des études sur les écosystèmes urbains au Canada, donc c'était institutionnalisé comme ça. Et dans cet écosystème urbain, eh bien, il y a l'humain. Donc ces connaissances scientifiques, ça pose quand même la question de quelles connaissances scientifiques en termes de qualité, de quantité. En termes de quantité, c'est vrai qu'on peut rester dans le paradigme du toujours plus. On est toujours plus nombreux, toujours plus riches, toujours plus savants. Au Québec, on dit des sachants ou des savants. Les savants qui ont une connaissance théorique et les sachants qui ont une connaissance du territoire. Cette déconnexion, parfois, peut s'avérer utile quand on essaye de mettre en place des mesures qui sont issues de politique et qu'on arrive sur le terrain et ça ne marche pas. Donc peut-être en termes de connaissances scientifiques, il y a là une recherche, enfin une voie à explorer pour aller sur ces barrières qui sont à la fois donc, des barrières de mise en place de stratégies d'adaptation ou n'importe, hein, de mesures, de durabilité ou n'importe quoi, qui peuvent être des barrières institutionnelles. Donc là, on retrouve dans l'écosystème urbain, il y a ces espèces qui sont autant d'entités qui interagissent entre elles, qui ont leur propre logique d'action, hein, que ce soit des organismes, des personnes, des syndicats, des chambres, etc.
Les espèces, c'était ça,
oui. Oui, c'est ça, les espèces. Et qui sont en processus dynamique tout le temps. Et il y a des barrières aussi cognitives. Alors, je suis étonné que, Chantal, tu n'aies pas invité quelqu'un de ce milieu-là, on va dire, sur ces aspects-là. Donc ça pose la question... Eh oui, ça pose ça, oui, voilà, exactement.
Alors, explique-nous.
Alors, bon, explique-nous, donc Guillaume. Ça pose la question jusqu'où on a besoin de connaissances pour agir ou est-ce qu'on ne va pas dans une voie, on ne manque pas quelque chose, quoi. C'est-à-dire, on ne se pose pas les bonnes questions, finalement. Quoi.
Parce qu'il y a eu de grandes critiques sur les écoquartiers, par exemple. Les écoquartiers, c'est super, il y a 10 ans, chaque ville voulait lancer son écoquartier jusqu'à ce qu'on se dise, bon, finalement, est-ce qu'un quartier, finalement, qui est défini comme presque en autonomie, qui est tourné sur lui-même, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est ça vraiment que l'on veut, et du coup il y a un grand mouvement de contestation en tout cas d'une certaine façon de faire des écoquartiers. Donc c'est pour ça que je posais cette question.
Mais en fait il y a un exemple que monsieur Baudouin a souligné un petit peu, c'est-à-dire que avec les images satellitaires on voit bien les îlots de chaleur et tout, et en même temps il y a une décision qui fait qu'on construit des terrains synthétiques de foot, de soccer, de foot. Donc là, il y a quelque chose, il y a donc une réalité à l'échelle du territoire qui fait qu'il y a une demande de terrain synthétique pour, je ne sais pas, après, il y a plein de choses là-dedans.
Il y a des arbitrages à faire,
exactement. Toujours est-il qu'on atterrit parfois à des situations qui paraissent contradictoires.
Angèle,
Voilà, si je peux dire quelques mots à ce stade, un peu dans la suite que ce que disait Guillaume. Moi, je me situe un peu en aval de ce sujet, puisque l'Agence parisienne du climat, elle n'a pas vocation à faire des recherches scientifiques. En revanche, nous avons vocation à contribuer à l'atteinte des objectifs du plan climat de la ville de Paris, puisque nous avons été créés à l'initiative de la ville de Paris il y a un an et demi, avec maintenant plus de 70 partenaires qui nous ont rejoints. Et donc nous, notre métier, c'est un petit peu justement de bien comprendre quelles sont les données scientifiques, de comprendre la robustesse de ces données et de faire, je crois que les Québécois ont un mot pour ça, être un peu des traducteurs de ces sujets et de ces données vers le citoyen qui a besoin d'être en confiance, de comprendre un peu le monde qui change et qui s'offre à lui, et puis aussi d'intégrer ces données dans les modes de raisonnement des entreprises ou des sociétés, des décideurs qui ont besoin d'être un peu plus éclairés sans avoir à rechercher des données multiples, mais d'être quand même en confiance avec ces données. Donc ça, c'est le travail que nous, on entreprend à l'Agence parisienne du climat.
On a vu tout à l'heure que Mme Blanco, elle avait du mal à avoir des données aussi. Elle nous l'a dit. Moi, je n'ai pas les moyens de Montréal. Moi, j'aimerais bien pouvoir me payer des images comme ça.
Mais alors, après,
donc ça se paye aussi des données.
Oui, alors, il y a effectivement les chercheurs et ces organismes ont besoin de beaucoup plus de données. Nous, je pense qu'au stade actuel, on a déjà un certain nombre d'éléments d'information fiables.
Est-ce que ce n'est pas des coûts qui pourraient être partagés, par exemple? Voilà.
C'est
aussi.
C'est une autre question. Nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin de traduire et d'être présents sur le territoire et d'aider à ce que les citoyens comprennent mieux ces sujets. On n'a pas besoin encore d'acquérir énormément de données, mais surtout de traduire celles qui sont à la disposition et puis après de faire en sorte que ce soit un vrai outil d'aide à la décision quand on doit choisir d'investir pour réhabiliter un patrimoine, pour mieux consommer, pour être plus pertinent. Voilà.
Gaëlle Borfouic, qu'est-ce que vous pensez de cette question de savoir si finalement on sait déjà assez de choses suffisamment pour pouvoir guider les politiques?
There's a slight delay in the translation. I think from our point of view, working on our study with the city of Chicago, you know, there's certainly sustainable strategies both from an urban point of view and from an architectural point of view, engineering point of view. We certainly have strategies to reduce the energy usage and thus the carbon usage, you know, whether it's lake water cooling or solar thermal or, you know, green spaces. But the issue that we always came up against and we continue to come up against is code and zoning issues. You know, there's certainly the International Green Building Code. Adoption of codes like that would move things along much quicker. But politically, those are not always easy to accept because they have ramifications of perhaps not getting elected into office the next year. So there's not only that issue, though. There's also the issue of the cost and providing funding or funding structures for those buildings to renovate. So, you know, to take existing buildings and to renovate them to make according to a new building code, it can be extremely cost prohibitive. And so, you know, we're starting to look at new financial models that will allow that to happen. And I think you have a model here in Europe that we are just starting to use in the U.S. called MESA, which is a managed energy model, which we don't have. It's not getting a lot of acceptance in the U.S. right now because it's too new. And so with structures or issues that we come up against of zoning, getting zoning and building code changes and financial structures are, you know, the biggest issue. It's not actually the strategies. The sustainable strategies are there and they're known and proven. It's the other logistics to get it to the end point.
Mireille Ferry vient de nous rejoindre. On vient juste de commencer, Mireille, donc il n'y a pas de souci. La question que je posais, c'était, est-ce qu'on sait assez de choses pour pouvoir guider l'action publique aujourd'hui? grosso modo, on pourrait la résumer comme ça. Et je donnais l'exemple, l'exemple des écoquartiers où tout le monde s'était rué dessus. Chaque ville, voire presque chaque village voulait son écoquartier, jusqu'à ce qu'on se compte que finalement, bon, c'était pas forcément le modèle qu'il fallait travailler si on voulait devenir aller vers des villes et des agglomérations durables. Voilà, où on en est, et parce que c'est une question qui a été posée en ouverture de cette séquence par Luc Abadie, disant finalement, les villes sont des écosystèmes que l'on connaît mal, et on connaît mieux ce qui se passe au fin fond de la forêt amazonienne et le comportement de tel arbre que finalement le comportement de l'arbre qui est juste en bas de chez nous.
Alors, merci de m'accueillir avec ce retard lié aux arbitrages sur le schéma directeur, voilà, un peu compliqué en ce moment. Moi, je suis d'autant plus ravie d'être là que le sujet, effectivement, il est au cœur de nos préoccupations. Je ne vais pas parler du schéma, mais c'est clair qu'on est tous en train de chercher des savoir-faire. Alors,
si le schéma, c'est le schéma directeur de la région Île-de-France, qui est un document, tu peux le présenter peut-être rapidement pour ceux qui ne...
C'est un document de planification qui essaye d'organiser le territoire francilien pour les 20 ans qui viennent. Donc de prévoir la localisation de l'urbanisation, des infrastructures, des grands services, mais aussi les espaces ouverts, leur fonctionnement, leur capacité de se régénérer, d'être ou pas en lien fonctionnel, continuité biologique, les espaces boisés, ce qu'on en fait. En gros, c'est tout ce qui définit l'affectation des sols pour une période de 20 ans. Document qui a pu paraître, je vais retomber sur mes pattes comme ça, dans un premier temps, comme un document essentiellement technocratique, technique, figurer l'affectation des sols, et qui est éminemment, foncièrement, qui doit être un document politique de négociation, finalement le creuset de tous les actes aujourd'hui, que ce soit sur la question urbaine, que ce soit sur la question de la préservation des espaces ouverts, que ce soit sur les questions de gouvernance de l'ensemble de ces espaces, de définition de ce que c'est que la ville, de ce que c'est que la métropole, définition géographique, une limite bien dessinée, ou géographie fonctionnelle. Ce sont les fonctions de la métropole qui définissent la métropole, ce sont les fonctions de la ville qui définissent la ville, et auquel cas il faut qu'on s'empare de ce débat, parce que est-ce que la fonction alimentaire est une fonction urbaine? Est-ce que du coup l'espace ouvert participe du système urbain? Question qu'on n'a jamais posée, on a toujours dans notre belle logique géographique séparé l'espace urbain, l'espace bâti, de l'espace non bâti, de l'espace ouvert, voire même, disent les architectes, de l'espace vide. Donc ce lien entre les espaces, c'est finalement ces correspondances fonctionnelles nous interrogent, et on y reviendra, mais elles interrogent tout le monde, puisque l'Europe aujourd'hui, dans la politique, ses fonds structurels, quand elle aborde la question urbaine, ne définit plus les villes comme étant des lieux, comme le fait aujourd'hui en France l'INSEE pour définir la métropole, avec un seuil d'habitants ou avec une limite géographique, une unité morphologique, l'espace bâti, mais est en train d'évoluer vers des aires urbaines qui auraient des fonctions urbaines. Et là, il faut que nous, on s'empare de ce débat, parce que, y compris dans ma famille politique, dont je suis Europe Écologie Les Verts, y compris dans ma famille politique, et il y a encore deux jours, quand je dis dans la définition de la métropole, et Marie-Lise Lebranchu, là, sur l'acte 3 de la décentralisation, dit bien, on n'a pas tranché, est-ce que la métropole, c'est une entité géographique définie, ou est-ce que c'est un ensemble de fonctions, fonctions métropolitaines, lesquelles? Nous, il faut que... Enfin, je dis nous, la grande famille qui essaye de militer pour une autre approche plus liée à l'écologie de ces questions-là, nous devons nous emparer de cette question parce qu'effectivement, qu'est-ce qui relève de la fonction urbaine ou de la fonction métropolitaine aujourd'hui? Et comment les espaces ouverts, la biodiversité, les espaces naturels, les espaces productifs de ressources participent ou pas de la fonction métropolitaine? Voilà. Alors, sur la question posée, pardon... Donc, et après je m'arrête, promis. Sur la question posée, j'aurais spontanément répondu, mais évidemment on a les connaissances, mais si vous me dites que Luc Abadie est l'inverse, je vais surtout dire comme Luc Abadie, effectivement il faut que nous affinions, et les travaux que vous avez menés en particulier sur la question de, si je me souviens bien, l'hétérogénéité des, je le dis avec mes propres mots plutôt en géographe, mais l'hétérogénéité des milieux est garante de leur capacité résiliente ou de leur capacité de survivre à des transformations, etc. Ça, on le pressentait, on le disait depuis longtemps, mais vous le démontrez, ça on en a besoin. Donc on a besoin que la recherche avance, et oui, sans doute, elle n'est pas encore assez aboutie, elle ne le sera jamais par définition, puisque c'est de la recherche. Néanmoins, ce que nous savons déjà devrait nous permettre d'agir, et le fait que la recherche soit la recherche et qu'elle doive continuer d'avancer ne doit pas être un prétexte pour les politiques pour ne pas s'emparer de ce que nous savons déjà et qui nous permettrait d'aller déjà beaucoup plus loin que là où nous allons. Voilà.
Guillaume Simonet faisait la distinction tout à l'heure entre savants et sachants. C'est les sachants étant ceux qui peuvent articuler le savoir des savants, hein, un petit peu ça. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est qu'on articule, que la connaissance devienne opérationnelle. Mmh. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de tordre ce concept. Mais c'est, même si c'est pas ça, c'est pas très grave. Non, l'idée, c'est quels outils ont les métropoles aujourd'hui ? Est-ce qu'elles ont mis en place des outils pour développer ces politiques, donc d'utiliser les services écologiques ? Est-ce que ces quel type d'outil ? Donc, on a un outil d'information, hein, vous êtes à la tête de cet outil, mais au-delà de l'information qui est un premier pas vers la prise en compte et la réalisation de ce que peut fournir la nature en termes de services écologiques et peut-être réciproquement aussi ce que la ville aussi peut fournir, est-ce que ces outils sont efficaces, hein ? Est-ce qu'on en a assez créé ? Est-ce qu'il faut, comment on articule en fait tout ça ?
Ouais. Mais là encore, quand on parle d'outils, on parle d'utilité, donc on s'attend à ce que la nature soit utile pour l'homme. Et parfois, on en oublie un peu que l'homme peut être aussi utile pour la nature. Quoi. C'est-à-dire que cette séparation...
Gaël Bonfouy disait
que
les comportements aussi sont importants. Hein, oui, le chiffrer à 5 et 15%, il y a même certaines situations où le comportement humain est responsable de 30 voire 40% de différence.
Tout à fait. Donc ce que disait Mme Ferry justement sur une redéfinition des systèmes urbains ou même l'écosystème urbain en tant que tel, etc., on voit bien qu'il y a les frontières bougent à ce niveau-là et la séparation homme-nature est de plus en plus faible. Finalement. Hein. Donc en termes d'outils, en termes de connaissances, là encore, je rebondis toujours sur le même truc, mais on a des connaissances rationnelles, donc des outils clairs, hein, la cartographie, ça peut nous aider à l'aide à la décision, etc. Mais il y a des connaissances, peut-être, enfin, il y a quelque chose à faire dans l'irrationnel, parce que les comportements humains n'obéissent pas à des logiques d'action complètement robotiques, etc. Donc là, il y a peut-être un effort à faire de ce côté-là sur les connaissances.
D'où l'information.
Et puis après, comment ça peut se traduire en termes d'outils ? Et là, alors, là, on ouvre sur plein de choses. La démocratie participative peut être quelque chose pour faire remonter un petit peu les sachants, c'est-à-dire le savoir vernaculaire du territoire, etc., qui n'est pas forcément mis dans l'académie. Donc, histoire de les faire remonter et après trouver des outils. Et là, on atterrit à la gouvernance, etc., etc. Donc, ça ouvre une autre voie de recherche qui est aussi, selon moi, importante que la cartographie, etc., etc.
Oui, donc il y a le savoir, mais il y a aussi après comment on prend les décisions.
Juste un petit complément. Nous ne sommes pas que dans l'information. Surtout quand on est sur une grande capitale ou une métropole, on pourrait s'y perdre. On est dans l'information, mais aussi on est dans l'accompagnement au changement. Donc ça veut dire que sur un certain nombre de cibles qu'on va privilégier ou pilote, il va falloir regarder quelles sont les informations qui permettent d'accompagner le changement. Et autre élément aussi que l'on fait, nous, sur la question de l'énergie du climat, mais qui pourrait peut-être se transférer sur les questions de services écologiques, c'est d'essayer de construire collectivement, dans un partenariat très, très vaste, un peu un socle commun de connaissances, où chacun vient s'approprier ce sujet, le croiser avec d'autres. Chantal parlait ce matin, effectivement, de s'écouter, de dialoguer, d'échanger entre chercheurs,
oui, mais
entre entreprises.
Concrètement, on fait ça où ?
On fait ça chez nous pour une petite partie du sujet. Et j'ai beaucoup aimé ce que disait Madame tout à l'heure quand elle parlait du financement, parce qu'effectivement, les données sur les questions de financement et les arbitrages et la réalité des coûts qu'il faut mettre en face des processus de décision nécessitent obligatoirement d'avoir cette compréhension commune des enjeux et d'avoir des lieux justement de discussion et d'échange sur lesquels on peut essayer d'avancer ensemble. Donc c'est nous ce que nous essayons de faire modestement sur les questions d'énergie climat pour contribuer à la réussite des questions climat. Mais le modèle qu'on essaye de mettre en place depuis un an et demi, finalement, pourrait très bien s'interpeller à la question des services écologiques qui est posée aujourd'hui et peut-être offrir des idées pour avancer.
Bertrand Ressé, comment vous réagissez à cette question, la question des outils, vous qui voyez ça du haut du ministère ?
Alors, enfin, nous, c'est vrai qu'au niveau du ministère, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de villes qui sont dotées de plans d'action, qui font des actions concrètes. Bon, on a parlé de Paris, il y a d'autres métropoles en France qui sont engagées, en particulier le Grand Lyon ou des agglomérations comme ça qui s'engagent dans ces questions.
Les grandes villes, voilà, voilà. Celles qui en ont les moyens aussi, parce que ça coûte.
Voilà, ça c'est une autre question. Je crois que c'est aussi un petit peu vu à plusieurs reprises. Quand on parle d'espace vert, effectivement, ça génère aussi certaines contraintes qui n'existent pas quand on n'a pas les espaces verts. Enfin, voilà. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que je pense qu'il y a quand même tout l'aspect décideur qui a impulsé le mouvement, parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est que les villes qui aujourd'hui sont en avance dans ces questions-là, c'est des villes qui, en général, se sont elles-mêmes lancées à leur propre initiative dans ces nouvelles questions, même si après, depuis, on a beaucoup parlé des lois Grenelle.
Des villes ou des agglos.
Ou des agglomérations.
Des agglomérations, hein.
Pour tout ce qui est planification, des actions, on va dire que ce soit sur les questions de trame verte, les questions de climat, énergie territoriaux, il y a eu un outil législatif qui est arrivé, mais en fait aujourd'hui ce qu'il faut quand même voir, c'est que les villes qui aujourd'hui sont en avance ou dans les temps par rapport aux exigences réglementaires sont finalement des villes qui avaient anticipé ces questions-là. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous arrivez
normalement,
avec un arsenal...
Normalement, c'est à vous d'anticiper. Enfin, je dis vous, le ministère. Normalement, c'est quand même à l'État de fixer un cadre aussi, de voir plus loin. Je ne vous interpelle pas, hein, je ne remets pas en cause, c'est pas le problème. Mais quand on parle des outils, généralement, c'est vrai qu'on a l'impression que, finalement, les territoires, les agglomérations sont très créatrices à la fois de... Elles créent des problématiques, elles créent des outils pour voir des choses. Et les agglomérations que vous avez citées, mais il y en a d'autres. Il y a aussi Nantes aussi qui se sont dotées d'outils pour voir des choses. Et comment le ministère et l'État aussi peut accompagner ce mouvement-là? Parce que les villes font des choses, mais il y a aussi un mouvement dans les deux sens qu'il faut pour que ce soit vraiment efficient.
Oui, alors.
Et notamment en termes de, parce qu'il y a du financement aussi. Là, on peut y revenir, mais c'est quand même la clé de voûte pour la production de données, pour l'articulation des connaissances, pour aussi le faire en sorte que tout le monde se rencontre. Là, on est là parce que aussi il y a certaines conditions, qu'il y a des acteurs qui ont bien voulu participer et donner leur concours à cette rencontre. Donc tout ça, c'est quand même très important.
Oui, alors pour ce qui est de, on va dire, et qu'est-ce que fait l'État pour que les villes fassent quelque chose, en fait, voilà. Bon.
C'est pas que oui, ça, mais...
Non, mais juste sur cet aspect-là, en fait, comme je disais, il y a eu quand même un souhait législatif, en fait, finalement, d'imposer par le haut aux villes qu'ils ne faisaient pas déjà, de mettre en place de la planification en termes de gestion des ressources, de lutte contre le changement climatique. Et comme je disais, ce qu'on a vu, c'est que les villes qui n'avaient pas du tout commencé, aujourd'hui, sont extrêmement en retard et on a des délais qui se sont allongés. Ce qui prouve que même si le problème est important et la commande vient d'en haut par la loi, c'est pas toujours qu'on tient les délais.
Ça, vous savez.
Ça, c'est un premier point. Sur les points, effectivement, de financement, sans revenir sur le climat actuel des finances publiques, c'est vrai qu'on a par nature du mal à créer de nouveaux outils de financement sans faire de vases communicants ailleurs. Donc c'est tout un problème. Cela étant, il faut voir que dans le processus quand même de plan climat énergie territoriaux, schéma régionaux climat air énergie, il y a quand même des fonds. Bon, c'est que des cofinancements et c'est sans doute pas suffisant par rapport aux besoins, mais ça c'est l'éternelle question, qui sont quand même venus de l'État, enfin on va dire de l'État à destination des collectivités pour aider un petit peu ces diagnostics. Et alors sur les connaissances, même si c'est pas parfait, nous en tout cas au ministère et à l'ONER, qu'on a fait de gros efforts depuis quelques années pour mettre à disposition gratuitement, en tout cas de ceux qui vont les utiliser, des outils en termes de soit de méthodologie, mais également des projections climatiques accessibles librement. Vous téléchargez directement sur Internet. Il y a soit des rapports qui avaient été publiés il y a quelques années. Récemment, il y a des nouveaux portails qui s'appellent DRIAS qui vous donnent des données extrêmement précises à des mailles extrêmement fines sur l'ensemble du territoire. Bon, ça aujourd'hui, c'est de l'information qui est gratuite pour ceux qui vont sur Internet. Derrière ça, en partie, il y a quand même beaucoup d'argent de l'État qui a permis
de créer ça.
Que ces données soient gratuites, parce qu'en fait...
Vous parliez tout à l'heure des nouveaux schémas qui ont été institués par la loi Grenelle, hein, Grenelle 2. Ça me permet d'articuler la troisième et dernière question de cette table ronde. Quelle est l'échelle, finalement? Quelle est la bonne échelle de ces politiques pour essayer d'avoir une... Si on veut prendre en compte les services écologiques, Mireille Ferry disait tout à l'heure, remettez en cause, finalement, la distinction ville-campagne. Luc aussi. Hein, on voit que la théorie urbaine, puisque c'est quand même la théorie urbaine à l'origine qui a couper ville et campagne. Enfin, ça peut se discuter, mais en tout cas, c'est la ville quand même qui a fait la séparation. Là, à quelle échelle il faut penser, je veux dire, maintenant là, quelle est la bonne échelle? Est-ce que c'est l'échelle de la métropole? Est-ce que c'est une échelle, alors les bassins d'activité, c'était ça, quel type de fonction? Est-ce que vous avez une réponse là-dessus?
Enfin, j'ai une réponse, mais qui ne va pas vous satisfaire. Je pense que
je vous arrangerai avec la salle à la Pause Café tout à l'heure.
Non, mais les échelles, je pense que sur beaucoup de, enfin sur ces questions-là, en tout cas sur ce qui est de l'adaptation ou service écosystémique, en fait, c'est toutes les échelles. On a parlé des espaces verts. Je crois que on ne va pas repartir sur des travaux de recherche actuels ou récents, mais en gros, on sait qu'aujourd'hui, si on met le paquet à Paris sur les espaces verts, ça ne suffira pas. Par contre, on sait que si autour de Paris, on développe certains types de couvertures végétales, ça peut aider. Ça veut dire d'une chose que les échelles en termes d'action sur des services écosystémiques, souvent elles dépassent l'échelle de la ville Paris en l'occurrence, mais ça serait vrai dans d'autres villes. Et ça veut dire également que pour beaucoup de ces contraintes, il faut aussi, je pense, être dans un certain sens modeste en disant que dans une ville intramuros, il est fort probable qu'on soit absolument pas en capacité technologique de gérer toutes les contraintes qui vont arriver. Et donc, juste pour conclure sur ça, c'est pour ça que les systèmes qui aujourd'hui peuvent paraître comme les systèmes, on va dire, conjoncturels du type plan canicule, qui peuvent paraître comme des systèmes extrêmement légers, ça reste des choses qui sont extrêmement importantes et sans doute à l'avenir qui vont perdurer, parce qu'on est dans des limites où structurellement, c'est peut-être pas, on saura pas ou à des coûts qui ne sont pas acceptables, gérer intégralement les effets du changement climatique sur nos villes et la continuité des services qu'on rend à tous les citoyens.
Mireille Ferry.
Oui, moi, c'est presque un appel, c'est-à-dire que je pense que dans un lieu comme celui-ci, on peut se permettre de travailler sur la complexité. C'est pas que ce soit compliqué, mais de fait, c'est complexe. Si nous pensons, ce qui est quand même au cœur de la réflexion sur tout ce qui est l'écologie, qu'elle soit scientifique ou politique, que nous devons désormais raisonner dans un contexte de système. Nous sommes dans un système. Dans un système, qu'est-ce qui se passe? La belle invention des géographes pour lire le paysage ou le territoire, qui est l'échelle, est un outil de lecture. Mais ça n'est pas parce que c'est un outil simple et que les institutions se sont calquées sur les échelles pour créer des communes, des départements, des régions, l'État, l'Europe, qu'on est condamné à ne penser la démocratie et donc à ne penser l'action publique qu'en fonction, à chaque fois, d'une échelle. C'est-à-dire, un nouveau regard qui dépasse la notion simple d'échelle, qui reste pertinente mais pas suffisante. Il y a un nouveau regard à porter sur le système du vivant, sur l'articulation des territoires, qui ne soit pas que scalaire, et il y a sans doute une nouvelle démocratie du projet à inventer qui ne soit pas qu'à une seule échelle. Grosso modo, parce que ça nous renvoie au débat sur la gouvernance, faut-il ou non créer un nouveau Grand Paris qui supprimait les départements, mais qui ferait l'ancien département de la Seine? On s'en fout. C'est-à-dire, le problème n'est pas de définir une nouvelle collectivité avec une jolie frontière. La question est de trouver les moyens pertinents d'agir pour mener en 5, 10 ou 15 ans un projet à bout. Donc finalement, le lieu de résolution des conflits d'échelle, le lieu politique et démocratique qui nous permettrait d'aller vers le système en matière de biodiversité qui aille de l'échelle locale, on lutte contre l'îlot de chaleur en mettant des arbres dans Paris, à l'échelle planétaire, il faut réguler et trouver peut-être une instance, etc. Cet immense conflit d'échelle où chacun a sa solution pourrait trouver une solution dans la définition de projets multiscalaires, multi-institutionnels, etc., qui nous permettent de traiter un sujet de manière différente. C'est à inventer, mais quand même, on commence à en avoir un peu l'intuition, quoi. Même on commence à avoir quelques-uns à pouvoir proposer des esquisses de solutions.
Marie Gantois.
Je suis tout à fait d'accord avec les réponses qui ont été apportées sur cette question d'échelle. Pour moi, toutes les échelles sont pertinentes, elles sont en plus cohérentes, elles peuvent s'imbriquer entre elles. On a beaucoup parlé de l'échelle communale, départementale, régionale. C'est vrai que en ce qui concerne la biodiversité, on a par exemple le schéma régional de cohérence écologique qui est donc là à l'échelle de la région. On a l'élaboration des trames vertes et bleues qui, ça, peut se faire à une échelle communale. Je voudrais aller un peu plus loin en disant qu'on peut également aller à l'échelle infracommunale en raisonnant au quartier, voire à l'îlot et au bâtiment. Quand on parle de toiture végétalisée, quand on parle de rue végétalisée, on va aussi à une échelle plus petite que l'échelle de la ville.
Guillaume Simonet.
Oui, ben juste, je prends ma casquette de chercheur. Et puis, ce que disait Madame Ferry, donc sur la vision systémique, je crois que c'est Monsieur Abadi qui l'a dit ce matin, c'est un outil en soi. Il n'y a pas que des outils cartographiques, il y a aussi des outils de compréhension. Et étant donné que nous sommes dans un écosystème urbain complexe, de plus en plus complexe, etc., etc., il faut aussi des connaissances complexes, mais il faut aussi une approche complexe, entre guillemets. Et ça passe par une vision systémique.
Au niveau qui est complexe, justement.
Oui. voilà. Et au niveau de la recherche, ça passe aussi par l'interdisciplinarité. Interdisciplinarité, ça veut dire l'association de savoir dans un objectif commun et non pas multidisciplinarité, c'est-à-dire chacun fait son truc dans son propre labo, puis à la fin, on fait un rapport multicouche, quoi. Hein. Donc, c'est assez différent. Donc, et ça demande quelque chose, ça demande, la mise en commun des savoirs demande l'ouverture vers un langage différent. Un géographe qui parle face à un sociologue, face à un climatologue, on peut parler chinois, indien ou arabe, on se comprendrait à peu près la même chose. Donc il faut un langage commun qui est à développer, à créer, et c'est tout le défi, je pense, de la recherche dans les prochaines années.
Angèle, pour conclure cette table ronde.
Juste un mot, parce qu'effectivement, tout a été dit. Et la dernière chose, c'est qu'effectivement, vu l'importance et les enjeux et les années qui passent, je crois que c'est vraiment une priorité absolue de ne pas trop se perdre dans qui doit faire quoi, mais surtout comment on va le faire ensemble, dans une gouvernance projet, comme vous avez dit, qui me semble un très beau mot.
Merci beaucoup, Gaël Borfouic, Mireille Ferry, Angèle, Marie Gontois, Bertrand Ressé, Guillaume Simonet. Allez, 10 minutes, il faut qu'on rattrape du temps, on a 25 minutes de retard. 10 minutes pour prendre un café et on attaquera la séquence 2. Merci, messieurs, dames. Le café, c'est là-bas, c'est au fond.